La section suivante traite du rôle du lama source ou lama racine. Ce que l'on nomme le lama source ou le lama racine, les deux sont synonymes. C'est deux façons de traduire Tsawe lama en tibétain. Tsawe lama, c'est le lama racine. Tsawa a le sens de racine, mais aussi le sens de ce dont vient ce qui est à l'origine et ce qui est source. Donc, il est juste et il est parlant de dire lama source, et surtout le lama est l'une des trois sources, Tsawasum, et particulièrement la source de l'inspiration. Et le lama est la source de la transmission, la source des enseignements, source de l'inspiration. Aussi le nomme-t-on lama source, et le lama source est la personne qui est ainsi source de transmission, source d'inspiration. Si on se demande quel est mon lama source, eh bien c'est le lama qui est ainsi source de l'inspiration, et source des enseignements, source de la transmission. Le lama que nous choisissons pour être notre guide personnel et avec qui nous établissons une relation essentielle s'appelle notre lama source. Donc, il est celui que nous avons choisi comme guide personnel, celui avec lequel nous avons établi une relation essentielle, une relation interpersonnelle, de cœur à cœur, et dans relation dans laquelle la communication et la transmission peut s'établir profondément. N'importe quel lama qualifié, celui que nous connaissons dans un centre du Dharma ou un autre, peut être notre lama source si nous avons avec lui une affinité et une connexion du Vajrayana par une initiation. Donc, il y a des critères de qualification pour un lama et pour choisir un lama source, un maître personnel qui va nous guider, qu'il soit lui-même rattaché à une lignée, qu'il ait une attitude de bodhisattva désintéressé, qu'il ait amour, bonté, bienveillance, et qu'il soit compétent dans l'expression des enseignements, que nous puissions bien communiquer avec lui, qu'il puisse y avoir une bonne entente, écoute et par la même transmission. Le lama source est particulièrement celui qui nous introduit à notre esprit comme étant le Dharmakaya, une phrase traditionnelle qui vient du yoga du lama, dit Pelden Sawe Lama Rinpoche. Alors, Pelden Sawe Lama Rinpoche signifie précieux lama source. Et Omin Chodiyin Kipodjana Tusum Sangye Tundiyongoni Ransem Chokung Sum Tenzepe Pelden Sawe Lama. Le glorieux ou le précieux lama source est celui qui nous introduit à notre esprit comme étant le Dharmakaya, celui qui nous montre la vacuité de notre esprit et celui qui nous fait reconnaître la nature de notre esprit. Au niveau essentiel, le lama source est celui qui nous fait reconnaître la véritable nature de notre esprit. Il est la source de l'influence spirituelle qui nous introduit à Mahamudra, la nature ultime de l'esprit. Il est celui qui nous fait reconnaître notre propre esprit comme étant Dharmakaya. C'est ce que nous disions et avec cette citation. Il nous donne directement l'enseignement adapté que nous examinons et pratiquons. Puis nous lui rapportons nos expériences et il nous dit de plus avant. C'est là le propre de la relation personnelle. Le lama source nous connaît, il a une bonne connaissance réciproque et il peut nous conseiller en fonction de nos réceptivités, de nos affinités, nous donner les enseignements qui sont adaptés à notre personne, à notre situation, à notre motivation, à notre mentalité. Donc, il nous donne un enseignement personnel, nous le pratiquons et nous lui rapportons notre expérience. Il y a un aller et venu entre les instructions, l'expérience et le retour d'expérience, le rapport d'expérience, ce qui permet au lama de percevoir ce que nous avons compris de ces instructions. Ça lui permet de compléter, de préciser, de confirmer, de rectifier. Donc, c'est dans cet aller-retour que s'établit la guidance interpersonnelle, la guidance personnelle avec les instructions qui, petit à petit, amènent à la réalisation. Reconnaître la nature de l'esprit est délicat. Si celui-ci avait une forme ou une couleur, le lama pourrait nous le montrer et nous dire « Voici, regardez !» Mais ce n'est pas le cas. Et il ne peut nous donner que des indications susceptibles de guider notre recherche personnelle dans la méditation. C'est très important. On ne peut pas dire la nature de l'esprit. Voilà. Et chacun peut la découvrir. Donc, le lama donne des indications, des conseils, des instructions, mais il appartient à chacun de conduire la quête, de faire la recherche et de découvrir dans son expérience personnelle, directe, intime, ce dont il s'agit. Aussi, lui rapportons-nous régulièrement nos expériences. Il nous aide à les comprendre et nous donne de nouvelles indications pour que nous poursuivions la recherche dans la bonne direction. Cela jusqu'à ce que nous arrivions à une expérience indubitable et à la réalisation véritable. Cette approximation par aller-retour, oui, non, peut-être, comme ci, comme ça, et de rapporter. C'est la guidance et l'accompagnement dans la quête et la recherche. Certains critères peuvent aider le disciple dans le choix de son lama source. Ce lama doit tout d'abord avoir un rattachement traditionnel authentique, garantissant la régularité de la transmission. Sa compréhension du dharma doit être profonde et sa réalisation effective. Ses paroles et ses actes doivent être en conformité. Il doit être désintéressé, c'est-à-dire ne pas être motivé par un intérêt matériel ou une satisfaction personnelle. Sa motivation pour aider ses disciples et tous les vivants doit être sincère, reposant sur bodhicitta, une compassion et un amour profond. Il faut encore que lama et disciple, que maître et disciple, puissent bien communiquer en toute confiance. Celui qui a ses qualités et compétences peut être notre lama source. Si avec confiance nous nous en remettons sincèrement à lui comme disciple, il deviendra le transmetteur de la lignée de tous les Bouddhas et la source de leur influence spirituelle. Un lama qui a ces qualités et qui est ainsi aussi rattaché à une lignée qui en est le porte-parole, a une qualité particulière qui dépasse sa personne personnelle ou sa personne individuelle. Et on ne sait pas nécessairement quelle est la véritable réalisation de notre lama. Il a une certaine réalisation qui lui permet de nous guider, mais on ne peut comprendre véritablement la réalisation d'une personne que lorsque soi-même est doté de cette réalisation. Donc il est très important que le lama s'inscrive dans une tradition authentique et qu'il en soit en quelque sorte le porte-parole, sa parole, on pourrait presque dire, ça en a une sorte de qualité, j'hésite à dire prophétique, mais ça n'est pas lui qui parle, c'est la lignée, la transmission qui parle au travers de lui. Ça n'est pas lui qui parle, c'est le Dharmakaya qui s'exprime par son canal. Et si l'on... Si vis-à-vis d'un tel lama qui a ce rattachement authentique et les qualités qui viennent d'être décrites, l'on établit une connexion, une relation de confiance, d'ouverture, il est alors le canal par lequel l'influence spirituelle de tous les Bouddhas passe et se transmet. Le disciple, de son côté, doit avoir grande confiance et beaucoup d'énergie pour mettre les enseignements du lama pleinement en pratique. Une grande confiance, confiance c'est une réceptivité, ouverture. Et la confiance ici n'est pas une confiance conceptuelle, mais une confiance qui permet d'entrer dans l'expérience, qui permet de s'y donner, de s'y abandonner, et beaucoup d'énergie, de constance, de suivi, de rappel, pour mettre les enseignements pleinement en pratique. Les bienfaits découlant de cette relation de maître à disciple dépendent fondamentalement de deux éléments, qui sont d'une part la réalisation, la compassion et l'amour du lama pour ses disciples, ses étudiants et tous ceux qui l'entourent, et d'autre part la confiance que les disciples ont en lui. Suivant une image traditionnelle, la réalisation et la compassion du lama sont comme un crochet et la confiance du disciple comme un anneau. La rencontre de l'anneau et du crochet illustre la très forte connexion qui s'établit alors et libère du samsara. L'image de la connexion et de la force libératrice de cette connexion. De nombreux lamas ont des qualités sublimes. Mais quand bien même ne les auraient-ils pas, si leur rattachement, leur motivation et leur intention d'aider les êtres sont justes, la relation avec eux peut être bénéfique et nous conduire à l'éveil. C'est ce que j'évoquais précédemment dans le rattachement d'un lama authentique. Celui-ci, si l'on a confiance en lui, devient le canal de la parole du Bouddha, de son influence spirituelle, qui conduit à l'éveil. Dans tous les cas, si nous avons établi avec un maître une relation au niveau du Vajrayana, ayant reçu de lui une initiation, Il est fondamental que notre relation soit positive, reste positive, quel que soit le comportement de ce lama. Il est important de garder la vision sacrée. Quoi qu'il fasse, il nous faut considérer ses actions comme d'adroits moyens de nous aider. Si nous savons développer une telle attitude, elle pourra nous ouvrir son authentique influence spirituelle et nous faire progresser vers l'éveil. Là, il y a un point à la fois important et difficile, qui est de garder une relation pure, une vision sacrée. Lorsque l'on a établi cette connexion essentielle avec un maître dans le Vajrayana, que l'on a avec lui ce lien sacré qui est ce que l'on nomme le Samaya, garder une relation positive est fondamental. Quoi qu'il advienne, et quoi que fasse le lama, alors, ça n'est pas une façon d'avoir pour un maître la possibilité d'avoir des comportements impropres ou inadaptés ou maladroits. Mais du point de vue du disciple, il y a toujours des résistances, il y a toujours des projections positives ou négatives, et il y a toujours des obstacles. Et l'on aura toujours, à un moment ou à un autre, tendance à avoir, vis-à-vis du maître, des pensées négatives, des doutes, des projections négatives, qui sont le résultat de et le produit de nos réactions, de nos difficultés, de nos résistances. C'est toujours comme cela, et c'est en sachant garder une relation positive qu'il est possible de dépasser nos résistances, nos difficultés. Donc, c'est très important. Et le lama source est celui qui nous permet de dépasser ce que l'on nomme l'auto-illusion. Dans le cheminement, il y a l'ego est là et il s'agit de dépasser ces illusions, de dissoudre ces illusions. Et nous sommes confrontés à nos propres illusions, à notre propre illusionnement. L'ego peut récupérer n'importe quelle pratique spirituelle, n'importe quel enseignement, le déviant, le contournant, le pervertissant. Le lama source est là pour dire attention, peut-être pas, ou même non, là, surtout pas, surtout pas. Et il a un rôle de miroir qui nous renvoie à la fois notre propre sagesse, notre propre bonté, nos propres qualités, mais aussi qui nous renvoie nos propres illusions, nos propres erreurs, nos propres difficultés. Et il est nécessaire de garder cette vision sacrée, car il est possible à un certain moment de dire non, non, il sait pas, il se trompe, je sais mieux que lui. Dans sa propre illusion, de s'auto-justifier, de s'auto-illusionner, et de partir à ce moment-là dans une voie de garage ou dans une dérive qui peut devenir irrémédiable. Donc, garder la vision sacrée et garder fondamentalement confiance en notre lama source, même si à certains moments ce qu'il nous dit ou les instructions qu'il nous donne semblent être pour nous contradictoires ou des contre-réalités, savoir garder une confiance fondamentale et en quelque sorte l'assurance ou qui permet de ne pas dévier. Et dans l'auto-illusion de l'ego, il y a certains moments dans la voix, celle-ci peut être extrêmement forte, dont l'importance de ce lien de confiance extrêmement profond et indéfectible qui peut nous sauver d'une déviation qui peut être irrémédiable. Si nous savons développer une telle attitude, elle pourra nous ouvrir à une authentique influence spirituelle et nous faire progresser vers l'éveil. Il est possible de recevoir une aide véritable, même de quelqu'un qui n'est pas parfaitement pur. Même si le lama n'est pas lui-même complètement éveillé, il peut nous donner des conseils et aider. Pour prendre un exemple, lorsque quelqu'un connaît une région, il peut nous indiquer la route, même s'il n'a pas de grande qualité ou si c'est une mauvaise personne. On peut toujours, d'après ses actions, juger qui est un grand lama ou un grand accompli et qui n'a que la prétention de l'être. On ne peut pas toujours, d'après ses actions, juger qui est un grand lama ou un grand accompli et qui n'a que la prétention de l'être. À un certain stade, les grands accomplis agissent souvent de manière étrange, voire extravagante, comme par exemple en buvant beaucoup de vin ou en ayant plusieurs femmes, etc. Néanmoins, quelqu'un qui prétendrait indûment être un accompli se retrouverait dans un état infernal ou deviendrait quelque animal monstrueux. En ce qui concerne le disciple, il peut être aidé par n'importe quel lama authentique en qui il a confiance. Donc, l'attitude extérieure n'est pas nécessairement le reflet de la réalisation intérieure. Et c'est un point difficile. Des comportements qui peuvent sembler étranges ou qui peuvent être inhabituels, non conventionnels, ne sont pas une disqualification et de grands accomplis peuvent justement avoir un comportement libre qui ne soit pas lié par les références sociales ou conventionnelles. On dit même dans d'autres contextes, la sagesse des hommes est folie au regard de Dieu. Donc, au regard de l'absolu, la sagesse conventionnelle et les conventions habituelles peuvent être dérisoires et dépourvues de sens. Alors, en même temps, c'est quelque chose de délicat parce que ça n'est pas en ayant un comportement inhabituel ou non conventionnel que l'on est un maître ou un grand maître. Beaucoup s'en faut. Non, il y a là une difficulté. Il est important d'y être attentif et vigilant.